Audiolib présente Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez. Traduit de l'espagnol par Claude Couffon. Lu par Thierry Blanc. La chasse à l'amour est chasse de haut vol. Gilles Vicente. Le jour où il allait être abattu, Santiago Nassar s'était levé à 5h30 du matin pour attendre le bateau sur lequel l'évêque arrivait. Il avait rêvé qu'il traversait un bois de figuiers géants sur lequel tombait une pluie fine. Il fut heureux un instant dans ce rêve, et, à son réveil, il se sentit couvert de chiures d'oiseaux. « Il rêvait toujours d'arbres », me dit Placida Linero, sa mère, 27 ans après, en évoquant les menus détails de ce lundi funeste. Une semaine avant, il avait rêvé se trouver seul dans un avion de papier d'étain, qui volait à travers des amandiers sans jamais se cogner aux branches, ajouta-t-elle. Placida Linero jouissait d'une réputation bien méritée d'interprète infaillible des rêves d'autrui, à condition qu'on les lui racontât à jeun. Pourtant, elle n'avait décelé aucun mauvais augure dans les deux rêves de son fils, ni dans ceux qu'il lui avait racontés chaque matin, les jours qui avaient précédé sa mort et dans lesquels des arbres apparaissaient. Santiago Nassar non plus n'avait pas discerné le présage. Il avait dormi peu et mal, sans se déshabiller, et il s'était réveillé, la tête lourde, avec un arrière-goût d'étrier de cuivre dans le palais. Il expliqua cela par les ravages naturels de la noce effrénée qu'il avait faite la veille jusqu'au petit matin. Les gens qu'il rencontra ce jour-là, lorsqu'il sortit de sa maison à 6h05, avant qu'il ne fût éventré comme un cochon une heure plus tard, le trouvèrent légèrement somnolent, mais de bonne humeur. Il dit à chacun, sans y attacher d'importance, que c'était une très belle journée. Nul ne pouvait affirmer s'il faisait alors allusion à l'état du ciel. Nombreux étaient ceux qui se souvenaient d'une journée radieuse, rafraîchie par une brise de mer qui traversait les bananiers, comme cela aurait dû être le cas pendant un bon mois de février en d'autres temps. Mais la plupart s'accordaient pour affirmer qu'il faisait un temps lugubre, avec un ciel bas et menaçant, sur un fort relent d'eau stagnante, et qu'à l'instant où le malheur s'était produit, il tombait une petite pluie fine semblable à celle que Santiago Nassar avait vue dans la forêt de son rêve. Personnellement, je me remettais de la bacchanale dans le giron apostolique de Maria Alexandrina Cervantes, et c'est à peine si j'ouvrais un œil en entendant le charivari des cloches qui sonnait le tocsin, convaincu qu'elle carillonnait en l'honneur de l'évêque. Santiago Nassar avait revêtu un pantalon et une chemise de lin blanc non empesé, identique à ce qu'il arborait la veille pour le mariage. C'était sa tenue des grands jours. N'eût été l'arrivée de l'évêque, il aurait enfilé son costume kaki et les bottes de cheval avec lesquelles il se rendait tous les lundis à El Divino Rostro, l'hacienda héritée de son père et qu'il administrait avec un grand bon sens, à défaut d'une grande réussite. Pour ses randonnées, il portait à la ceinture un 357 Magnum, dont les balles blindées, affirmait-il, pouvaient vous fendre un cheval en deux. À l'époque des perdrix, il emmenait aussi ses faucons dressés. Dans son armoire, il rangeait une Mannlicher Schonauer en 30-06, un 300 Holland Magnum, une 22 Hornet à lunettes à grossissement variable et une Winchester à répétition. Il dormait comme son père avait dormi, l'arme dissimulée dans la tête de l'oreiller. Mais ce jour-là, avant de quitter la maison, il avait retiré les balles du chargeur et déposé le pistolet dans le tiroir de la table de nuit. « Il ne le laissait jamais charger », me dit sa mère. Je le savais, et je n'ignorais pas non plus qu'il rangeait ses armes dans un endroit et cachait les munitions dans un autre, très à l'écart, afin que personne ne cédât, même par hasard, à la tentation de les charger dans la maison. C'était une sage habitude, imposée par son père depuis cette matinée, où une servante ayant secoué l'oreiller pour en ôter la taie, le pistolet était parti tout seul en heurtant le sol. La balle avait démantibulé l'armoire de la chambre, traversé le mur du salon, franchi avec un tintamarre de branle-bas de combat la salle à manger de la maison voisine et réduit en poussière.